Alors nous venons d'entendre ces premières parties de cette cantate de Rheinberger qui chante « Regardez, regardez quel amour du Père, quel amour le Père nous a montré. Regardez avec combien de miséricorde il tourne son visage vers nous. » Alors je trouve cet appel excellent. Ouvrir nos yeux, les lever, scruter un moment au-delà de la simple écorce de nos vies, de nos existences, de notre monde, et regarder. Chercher à voir non seulement le meilleur, mais ce qui est derrière ce meilleur. L'eau qui l'a irrigué, remonter son cours, explorer, chercher à voir la source d'où l'eau a jailli. Alors c'est ce que fait Moïse. Il prie l'Éternel et il lui dit « Fais-moi voir ta gloire ». L'Éternel répond « Voici un endroit près de moi, tu te tiendras sur le rocher et quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma paume jusqu'à ce que j'ai passé. Puis je retirerai ma main et tu me verras, mais par derrière, de dos. Ma face ne pourra être vue. » L'Éternel descendit dans la nuée, il se tint auprès de Moïse et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui en proclamant « L'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne la faute, le crime et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, et qui visite la faute des pères sur les enfants et sur les petits-enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Donc Moïse cherche à voir Dieu. Voir Dieu, c'est aussi ce que demande l'apôtre Philippe à Jésus dans ses derniers entretiens que nous avons dans l'Évangile selon Jean. « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Alors cette demande est magnifique. C'est pourquoi Jésus y répond. Bon, il y répond avec son habituelle franchise, un peu rude parfois. Car en effet, Jésus venait juste de dire qu'en réalité, nous connaissons Dieu et que nous l'avons vu par conséquent. Alors c'est dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14. « Si vous me connaissez, dit Jésus, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit alors, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas encore, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, toi, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que moi je suis dans le Père, que le Père est en moi ? Les paroles que moi je vous dis, je ne les dis pas de ma propre initiative, c'est le Père qui, demeurant en moi, fait ses œuvres. Croyez-moi, moi je suis dans le Père et le Père est en moi, sinon croyez au moins à cause des œuvres elles-mêmes. » Alors pourquoi est-ce que Jésus est un petit peu en colère, un peu revêche ? C'est qu'il était content de se dire qu'il avait accompli sa mission. C'est quelques heures avant d'être arrêté, donc. Sa mission de nous faire connaître Dieu et même de nous le faire voir. Mais il se rend compte avec déception que même s'il a bien fait son travail, ce n'est pas si facile pour nous de voir Dieu. En effet, bien sûr, Dieu est d'une toute autre dimension que nous, que ce monde, parce qu'il n'est pas de ce monde, bien qu'ayant un rapport avec ce monde dont il est la source. Et pourtant donc, nous pourrions voir Dieu où nous pourrions l'apercevoir donc d'une certaine façon. C'est ce dont Paul témoigne dans son hymne à l'amour, au chapitre 13 de sa première lettre aux Corinthiens, ce verset, mais il faudrait lire bien sûr le passage entier. Aujourd'hui, nous dit Paul, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière confuse, mais alors ce sera face à face que nous verrons. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. C'est donc une question ancienne et une question de toujours, un peu une question piège. Peut-on voir Dieu ? Comment voir Dieu alors ? Eh bien, regardons. Regardons pour voir, avec ces témoignages de Moïse, de Jésus et de Paul. Alors Moïse voit Dieu de dos. Enfin, il voit sa gloire. À ce point du récit de l'Exode, Moïse vient de détruire un veau d'or que les Hébreux s'étaient fabriqué. En effet, ils voulaient avoir un Dieu qu'on pouvait voir, qu'on pouvait tenir dans les mains. Cela montre combien la tentation de s'accrocher aux réalités tangibles est tellement forte pour l'humain, pour se rassurer peut-être. Cela le rassure de voir de ses propres yeux, de toucher de ses doigts ces réalités tangibles auxquelles nous sommes habitués. Par conséquent, dans notre désir de voir Dieu, nous devons faire attention à ne pas nous forger de jolis petits veaux d'or bien dorés, sculptés en dogmes massifs et en jolis rites. Alors fais-moi voir ta gloire, dit Moïse à Dieu. C'est une prière et je crois que c'est particulièrement pertinent de vivre notre recherche de voir Dieu dans la prière. Le terme de gloire est à mon avis une mauvaise traduction de l'hébreu kabod, parce que kabod c'est littéralement avoir du poids dans l'histoire. Alors on pourrait dire que c'est une forme de gloire, mais ce n'est pas la question. C'est avoir une efficacité bien réelle, tangible, dans son action. C'est ce que demande Moïse, de voir les effets réels, les bénéfices concrets dans leur vie, du projet de Dieu qui est de sauver son peuple, les personnes qu'il aime, et de les amener à la vie. Que cela ne soit pas simplement une belle promesse, que ça ne soit pas du pipeau. C'est la différence entre ce véritable principe actif qu'est Dieu, un Dieu vivant, un Dieu qui fait vivre, par rapport à un veau d'or. Alors le veau d'or, il est bien pratique. Il permet, bon, je vous laisse relire le chapitre d'avant, il permet de faire la fête autour de lui ensemble dans une superbe ambiance. Tout le monde est tellement content de ce joli Dieu qui brille et qui les rassemble. Ben, sauf qu'il ne nous rend pas meilleurs. Il ne nous fait pas avancer. Au mieux, il nous fait stagner. Au pire, il nous désespère et il peut même nous rendre parfois méchants contre les autres. C'est donc une bonne recherche de prier Dieu en lui disant « Fais-moi voir ta gloire ». Que notre théologie et notre prière, nos cultes, notre vie nous permettent réellement d'avancer. Que notre âme soit élargie, que notre cœur s'attendrisse. Que notre espérance ne s'épuise pas, que notre enthousiasme de vivre et de faire de bonnes choses dans notre vie soit vibrant et soit fécond. Moïse va expérimenter l'efficacité de cette prière de demander à Dieu de voir concrètement sa puissance dans sa vie. Dieu le guide dans sa découverte. Moïse doit d'abord se tenir sur le rocher. Alors bien sûr, le rocher dans la Bible, c'est la confiance dans l'Éternel. C'est la foi dans son amour, dans son salut. Cette méditation sur l'amour infini de Dieu pourrait être l'ouverture de toutes nos prières. Alors, vous pensez déjà, encore, il va nous parler de la grâce de Dieu. Ben oui, c'est... c'est la base de la base de la base. C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on prie. Le reste n'est que commentaire. De là, comme Moïse, eh bien, nous pourrons bien voir, nous pourrons mieux voir, mieux repérer les traces de l'Éternel dans notre vie. Et ce qu'il voit, effectivement, c'est Dieu qui passe. Dieu qui passe parce qu'il est vivant. Et c'est pour ça qu'on ne peut l'apercevoir que de dos. C'est normal puisqu'il est mouvement et qu'il nous précède dans l'existence. Ce qu'il voit, c'est la gloire de Dieu. Et ce sont toutes les déclinaisons possibles des mots qui disent « aimer » en hébreu. Son amour, sa tendresse, sa bienveillance, sa miséricorde, sa bonté, sa fidélité, sa patience, etc., etc. Et ce ne sont pas des idées seulement, puisque c'est la gloire de l'Éternel qui passe, qui proclame cela, et donc qui se manifeste. Ce sont des faits d'expérience dont il est question ici. Ce n'est pas simplement de la théologie spéculative. Dans la prière, c'est donc ce que nous pouvons chercher à contempler. C'est pourquoi il était utile d'abord de se tenir là, sur notre confiance dans l'amour de Dieu, afin de mieux en reconnaître les signes dans notre histoire, dans notre vie. Ouvrir alors nos yeux et regarder la gloire de son amour. Il a laissé des traces bien visibles de cet amour dans des faits de notre existence, s'en émerveiller après les avoir relevés. Ce sont des faits petits et grands, car chaque manifestation de bonté en ce monde est un véritable miracle, antinaturel. Alors il y a bien deux petites difficultés dans cette tirade saisissante de la gloire de l'Éternel qui proclame son nom. Mais elles sont faciles à corriger et je les fais à la volée en lisant ce texte. Non, Dieu ne punit pas, comme le disent certaines anciennes traductions de ce texte. Il est marqué littéralement que Dieu visite les familles où les pères ont fait n'importe quoi. C'est pour soigner que Dieu visite, bien entendu, c'est pour aider, c'est pour sauver. Bien sûr, comment en serait-il autrement? Comment le traducteur a pu supposer que Dieu visiterait? C'était forcément pour punir les coupables, et puis même les descendants de cette personne problématique. Ces familles, ces descendants, sont sans doute parmi les premières victimes. Et les traumas non soignés peuvent effectivement venir faire souffrir les 3 ou 4 générations suivantes, comme l'observe d'ailleurs la psychanalyse contemporaine. Donc, heureusement donc, que Dieu visite et le coupable et aussi les générations suivantes. Heureusement qu'il ne tient pas le coupable pour innocent, car le mal commis montre qu'il a besoin de soins. Il ne suffit pas de passer l'éponge comme une amnistie, mais cela, il faut encore la puissance de Dieu pour venir l'aider et le relever. Alors cela montre, nous donne encore des indices de l'action puissante de l'amour de Dieu pour ressusciter nos vies quand nous sommes coupables, quand nous sommes victimes, et de voir ainsi la gloire de l'Éternel s'étant manifesté. Alors voir cette dynamique active qu'est le Dieu vivant, voir son amour puissant, c'est voir la gloire de l'Éternel à l'œuvre. C'est voir le jaillissement de vie venant de la source. C'est voir Dieu lui-même à l'œuvre dans nos vies, dans notre monde. Cette observation de la gloire de l'Éternel, elle est très inspirante et instructive pour nous, mais cela se prépare, cela s'entraîne, cela s'entretient cela s'exerce dans la prière de savoir repérer ces traces dans notre vie. Alors ça devient progressivement plus facile et cela nous aide, comme les Hébreux, à nous mettre en route, comme à travers le désert, pour aller vers la vie et la vie en abondance. Alors la demande de Philippe est du même bois que la demande de Moïse, que sa prière. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Alors nous arriverons à avancer d'une belle façon. Jésus répond, celui qui m'a vu a vu le Père. Alors Jésus semble bien peu modeste en disant cela. C'est ce que font remarquer systématiquement les catéchumènes quand on lit ce texte avec eux. Qui m'a vu a vu le Père. Sauf que ce n'est pas de l'orgueil. C'est vrai. C'est vrai, et si ce n'est pas de l'orgueil, c'est que Jésus le dit précisément en expliquant que ce qu'il est, ce qu'il fait, ce qu'il parle, ce qu'il raconte, il n'aurait pas pu le faire par lui-même, par ses propres forces. C'est Dieu qui a agi en lui. C'est ça dont il témoigne dans ce verset et dans la suite que je vous ai lu. C'est Dieu qui a agi. En effet, qui peut se forcer à aimer un peu? Est-ce qu'on peut faire par la philosophie, par les bonnes résolutions? Peut-être que vous y arrivez, mais je remarque en moi-même que ce n'est pas gagné d'avance de le faire par la propre sagesse, par les bonnes résolutions. D'où nous viennent donc nos éclairs de bonté? La poussière du sol n'a pas de bonté. Et pourtant, nous sommes faits de la poussière du sol. Aucune cellule de notre corps ne fait preuve de bonté. Elle cherche juste à se nourrir, à se reproduire, à faire son job. Un point, c'est tout. Et pourtant, il nous arrive, nous, ensemble de cellules tissées de poussière de la terre, à avoir un peu de bonté, un peu de compassion. Un peu d'envie de faire plaisir gratuitement à quelqu'un d'autre. Alors c'est à un tout autre niveau que le simple fait d'exister ou d'être vivant, comme la cellule. Nous sommes alors déjà une source de vie, même si c'est une petite source. Cela n'a pu venir que d'un tout autre niveau que celui de la réalité de ce monde. Ça ne peut venir que de Dieu. Par conséquent, qui a vu un de nos modestes éclairs de bonté a vu le Père, car c'est lui la source de vie et donc de bonté, et cette source est en nous. Bien sûr qu'en Jésus, c'est à un degré supérieur, mais lui-même dit, tout juste après ce passage que je vous ai lu, que nous sommes un avec lui. Il nous dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Ça tisse une unité, finalement, entre Dieu, le Christ, et le meilleur de nous-mêmes. Quand Jésus dit « qui m'a vu, a vu le Père », il nous apprend à voir dans notre moi profond l'enfant du Père qui espère et qui aime. Et ainsi, il nous apprend à reconnaître Dieu, Dieu au fond de nous. Alors c'est immense, bien entendu, puisque c'est la transcendance au cœur même de notre immanence. C'est ce que dit Paul dans son hymne à l'amour. Nous pouvons voir Dieu comme dans un miroir, c'est-à-dire qu'en nous regardant nous-mêmes, nous voyons une capacité à aimer, et cette capacité à aimer est un amour qui ne meurt pas, un amour éternel, nous dit Paul, un amour qu'est Dieu en réalité. Nous pouvons donc voir Dieu, en regardant bien, certes de façon déformée et un peu confuse, comme nous le dit Paul, mais quand même, en regardant en vérité Au fond de nous-mêmes, nous pouvons voir Dieu. Saint Augustin, après une longue recherche de Dieu, par la sagesse, par l'intelligence, ô combien, par les Écritures aussi, finit par trouver Dieu et il explique. « Seigneur, tu étais au-dedans de moi, mais moi, j'étais au-dehors et je cherchais en vain, dans le monde, dans la sagesse, dans les livres, ta présence. » Cette vision de Dieu lui permet d'avancer très concrètement. Et Augustin nous conseille. Voici donc en quoi vous devez faire des progrès. Aimez le Seigneur, c'est monter sur le rocher. Apprenez par là à vous aimer vous-même. Et qu'alors, en aimant le Seigneur, vous serez parvenu à vous aimer vous-même. Vous pourrez alors en toute sécurité aimer votre prochain comme vous-même. Et effectivement, après cette démarche, en voyant notre prochain, nous pourrions reconnaître le Christ au fond de l'humanité de ce prochain, et donc voir en lui quelque chose du Christ dans son humanité, et quelque chose même du Dieu vivant en lui. Alors je peux en témoigner car dans ma vie, j'ai eu la joie de rencontrer bien et bien des personnes en des circonstances où elles osent se montrer d'une façon plus authentique, plus sincère qu'on ne le fait habituellement avec d'autres. Et je peux vous dire combien la personne humaine est touchante, toujours. Nul n'a choisi d'être méchant, ni dépressif, ni orgueilleux, ni égoïste. Ce n'est pas un loisir, ce n'est pas un plaisir. Chacun fait ce qu'il peut pour vivre, pour espérer. Alors c'est plus ou moins maladroit, comme le disait Paul. Mais quand on regarde au fond du fond de toute personne, on ne peut qu'être profondément ému. L'âme humaine est un miracle qui ne vient pas de ce monde. C'est Dieu, c'est la gloire de Dieu qu'on voit au fond de toute âme humaine. C'est ce que nous apprend cette phrase incroyable de Jésus. Qui m'a vu en vérité a vu le Père. Et c'est à vous, c'est pour vous, c'est de vous qu'il dit cette phrase. Car il vous connaît bien et il vous aime d'un amour éternel. Amen.